Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante. Même si la manière de les présenter est parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Maud Sénat.
Récit de voyage d'Abraham Golnitz. Érudit polonais, Abraham Golnitz voyage en France entre 1624 et 1631. L'itinéraire qu'il a suivi n'est pas curieux seulement par les descriptions qu'il nous donne des principales villes de France. Il offre aussi le plus grand intérêt au point de vue topographique pour fixer la situation exacte des anciennes routes nationales qui mettaient en relation les divers centres de population au commencement du XVIIe siècle. Golnitz est venu à deux reprises à Lyon en suivant chaque fois une route différente, chacune fort ancienne et remontant certainement l'une et l'autre à l'époque de la domination romaine. Car le Moyen-Âge s'était servi des anciennes voies de communication sans en créer de nouvelles, et les incessantes guerres civiles du XIe siècle n'avaient point permis d'entreprendre sur le réseau des routes qui sillonnaient le territoire des travaux d'amélioration qui ne sont possibles qu'aux époques de paix et de prospérité. Golnitz arriva à Lyon après avoir passé à Moulins, La Palisse, La Pacaudière, Roanne, Tarare et L'Arbrelle. C'était, comme on le voit, l'ancienne route de Paris à Lyon par le Bourbonnais qui semble avoir été, à toutes les époques, la plus fréquentée comme la plus courte pour se rendre de Lyon jusqu'à la capitale. Une foule de documents du Moyen-Âge en constate l'existence, surtout dans la partie comprise entre Lyon et Tarare. Voilà ce qu'écrit Golnitz dans ses carnets de voyage sur la route de Roanne à Lyon. Nous arrivons, à la tombée de la nuit, dans la petite ville de Roanne, située à 4 milles de la Pacaudière. Mais avant d'entrer à l'hôtel de la Tête d'Or, nous voyons venir au-devant de nous l'illustre comte d'Oettingen, qui arrivait de Lyon et venait passer la nuit dans l'hôtellerie voisine. Nous avions conservé un excellent souvenir de l'accueil gracieux qu'il nous avait fait auparavant à Paris. Aussi, avant de le quitter pour continuer notre route, lui adressâmes-nous nos vœux les plus empressés pour un heureux voyage. Le jour suivant, nous traversons sur un bac la Loire, qui coule à l'extrémité de la ville. Puis nous continuons notre chemin. D'abord, la route s'étend en ligne droite, puis elle devient montueuse et fait de nombreux circuits, ce qui rend notre marche lente et pénible. Aussi, pour abréger le trajet, nous nous écartions souvent du grand chemin. La route ancienne, suivie par Golnitz, s'écartait sur presque tout son parcours de la route actuelle qui la traverse à plusieurs reprises. De l'hôpital, elle gravit par une pente ardue la croupe de la montagne et atteint un plateau qu'elle suit jusqu'à Nau et Saint-Symphorien-de-Lay. De là, elle s'élève encore sur la hauteur, passe à Châtain, descend au bas de Fourneau, pour remonter de nouveau à La Roche et à La Fontaine, d'où elle gagne, presque en ligne droite, le Pimbouchin. Arrivée à l'auberge de La Fontaine, un hameau de la commune de Machezal, situé à 4 milles environ de Roanne, quelques-uns des nôtres, souffrant de la faim, demandèrent quelques aliments pour soulager leur estomac. Mais il n'y avait là pour les guérir de leur mal ni médecin ni médicaments. C'est pourquoi, quitte à dîner de meilleur appétit, nous nous remettons en route, sans retard, quoique le ciel fût pluvieux. Bientôt s'offre à nos regards une profonde vallée et des montagnes couvertes de rochers où les vents luttent avec les nuages. Nous suivons la croupe de la montagne, dominant des deux côtés du chemin un paysage accidenté et d'un aspect sauvage. La description que Golnitz donne de cette route est parfaitement exacte. En quittant le plateau qu'elle avait suivi, depuis la chapelle jusqu'au lieu appelé Château Gaillard, elle descend par une croupe ardue, d'où le regard s'étend d'un côté sur la profonde vallée de Joux que domine au midi de sombres bois de sapins et de l'autre la gorge sauvage et inhabitée où débouche actuellement le tunnel du chemin de fer. Golnitz continue ainsi. Nous descendons lentement au fond de la vallée et, par un chemin assez étroit, bordé de buis et traversant un territoire planté de vignes, nous arrivons enfin à 3 milles de distance dans la ville de Tarare, tout trempé de pluie, et nos conducteurs accablés de fatigue et mourant de faim. Nous nous arrêtons à l'hôtel de Saint-Sébastien. Au-dedans, tout est joie et plaisir. Le service de l'écurie, de la cave, de la table et le reste sont remplis par des femmes. On n'y voit aucun autre serviteur et toutes ces femmes sont sœurs et filles de l'hôtesse. Chacune a son emploi déterminé et chacune y pourvoit avec une exactitude parfaite. Jamais dans tout notre voyage je n'ai observé une organisation pareille. Les mets qui nous sont servis sont copieux et excellents. Les vins sont aussi bons qu'on peut les désirer. Les chambres sont vastes et d'une grande propreté, et ce qu'on ne doit pas moins louer, le tout à un prix modéré. Tout cela allait à merveille à des gens dont l'estomac était à sec pendant qu'à l'extérieur, leurs vêtements étaient ruisselants de pluie. Le jour suivant, avant de nous remettre en route, la table était servie de nouveau et l'on nous engageait à faire honneur au déjeuner qui nous avait été préparé. Mais l'hôtesse et ses suivantes prévoyaient que nous aurions à subir une tempête, car au moment de notre départ, la rougeur du soleil annonçait une pluie prochaine. Pourtant, il ne commença à pleuvoir que lorsque nous arrivâmes à Larbrel, petite ville située dans une vallée à 4 milles de Tarare. À notre entrée dans la ville, les hôteliers nous engageaient vivement à nous arrêter, mais nous avions hâte d'arriver à Lyon d'une seule traite. En sortant de Larbrel, nous quittons le fond de la vallée pour gravir pendant assez longtemps une route ardue au pavé glissant. La pluie nous cachait le sommet des montagnes et nous avions à lutter contre le vent et la grêle en lançant nos chevaux au galop ventre à terre. La tempête était si violente que nous craignions véritablement d'être emportés par le vent dans les nuages épais qui se traînaient sur les hauteurs pour aller retomber quelque part comme de la pluie. Notre conducteur lui-même, qui connaissait parfaitement cette route, était demeuré en arrière, presque suffoqué par le vent. Nous parvenons ainsi au village de la Tour, actuellement Tour de Salvani, situé à 1,5 mille de Larbrel. Nous avions l'intention d'y prendre un peu de repos, mais l'hôtellerie était dépourvue de tout, point de bois sec, aucun de ces divers services dont nous avions besoin sans retard. Il nous fallut donc renoncer à ce projet et nous remettre en route par un temps peu agréable pour gagner Lyon, dont nous étions éloignés 1,5 mille. Nous poursuivons donc, sans nous arrêter, en suivant un plateau dont nous apercevions les montagnes éloignées où avaient pris naissance ces nuages et toute cette pluie. Quoiqu'elles fussent situées à une assez grande distance de la ville, elles paraissaient cependant entourées, comme un cercle, la hauteur que nous suivions avec nos chevaux. Enfin, après une descente très rapide, nous arrivons au pied de la montagne. Nous faisons un assez long détour et nous parvenons à la porte de la ville, que nous n'apercevions point encore. Car, située presque tout entière au fond de la vallée, elle échappe au regard des voyageurs. Presque de tous les côtés, autour des remparts, s'élèvent des montagnes fort hautes, sur lesquelles sont bâties, en certains endroits, les murs de la ville. À l'entrée de la porte de Lyon, des gardes nous demandent nos noms et celui de l'hôtellerie où nous voulions loger. Je les leur donnai par écrit et ils y apposèrent leur visa après avoir reçu une gratification. Cependant, la pluie ne cessait de tomber. Il nous restait encore à faire un assez long trajet sur un chemin sinueux qui nous conduisit au pont jeté sur la Saône. L'eau tombait abondamment des chéneaux des toits jusqu'au milieu des rues et nous fûmes obligés de subir tout ce déluge jusqu'à notre hôtellerie au Lion d'Or de la Lanterne. Où, pour être admis, nous remîmes au maître d'hôtel le bulletin sur lequel nos noms avaient été inscrits à la porte de la ville. Nous arrivions ainsi, sains et saufs, au premier terme de notre voyage, mais après avoir fait une route très pénible et reçu une pluie torrentielle. Notre ami et notre hôte, Christophe Preguel, nous eût facilement fait oublier ce désagrément par ses soins empressés si nous n'eussions été attristés par la nouvelle du meurtre commis tout récemment dans l'hôtellerie. Nos compagnons avaient envoyé un serviteur avec quelques bagages de Paris à Lyon, où il arriva à bon port, soit en voiture par la route de terre, soit en bateau par la rivière de la Saône. Malheureusement, dans le trajet, il s'était lié imprudemment avec un Français qui était un profond scélérat, et peu de temps avant notre arrivée, cet homme, couchant dans le même lit que ce serviteur, l'avait mis à mort en le poignardant pendant son sommeil. Puis il prit la fuite et se sauva sans que les magistrats et les gens de justice se fussent inquiétés de le poursuivre. Nouvel exemple qui apprend aux voyageurs combien, dans un pays inconnu, ils doivent être réservés dans leur conversation et circonspects dans le choix de leurs compagnons de route. Gollnitz, qui venait dans notre pays pour le visiter et le connaître, apporte partout son esprit observateur et ne néglige aucune des choses dignes d'être remarquées. À ce titre, ses carnets de voyage nous livrent des renseignements extrêmement précieux sur les routes de France au XVIIe siècle.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Maud Sénat.